Eh bien, nous arrivons pour quelques instants seulement à Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Nous avons déjà examiné brièvement ensemble chapitre 5, versets 5 et 6. Commençons avec verset 4. Nul ne s'attribue cet honneur, c'est-à-dire de devenir souverain sacrificateur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut Aaron lui-même. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Ce passage, nous avons déjà examiné, n'est-ce pas? Et ensuite, une deuxième citation, la deuxième fois que Psaume 110 est cité dans ce livre, de même il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchizédek. » Maintenant, vous allez me corriger. Melchizédek ou Melchizédek? Melchizédek? Et les Français sont en accord avec les Suisses? Ou? Oui? Tant mieux. Eh bien, avant d'examiner ce passage, j'aimerais que vous lisiez Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, à partir de verset 41. Et à la fois, trouvez le psaume 110. Afin que vous puissiez sauter d'un passage à l'autre assez vivement. Matthieu 22, à partir de verset 41. « Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur posa cette question. « Que pensez-vous du Christ, c'est-à-dire du Messie? De qui est-il le Fils? » Ils lui répondirent. « De David. » Et Jésus leur dit. Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelait-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. J'ai visité assez souvent la Chine et d'autres pays asiens. Et dans ces pays, assez souvent, ceux qui sont plus âgés ont plus d'honneur. Donc, puisque je visite ces pays, plus que je reçois encore de l'honneur, parce que je vieillis, hein? Je me trouve dans un ascenseur, et il y a deux femmes âgées de 30 ans, puis un pasteur local, et moi. On arrive au troisième étage, quatrième étage, c'est le temps de sortir. Et avec mon arrière-plan, je veux dire, en effet, après vous, après vous, après vous. À ce point, je les insulte. C'est moi qui dois aller en avant. Après tout, je ne suis pas femelle. Et je suis plus âgé. Et je suis le professeur. Et en plus, je suis l'étranger. Donc, si je dis après vous à ces jeunes femmes, ils sont tellement gênés par cette insulte, franchement. La culture, des attentes. Un peu différent partout, n'est-ce pas? Donc, malgré le fait que ce n'est pas ma coutume, ce n'est pas comme ça que je pense, la porte de l'ascenseur s'ouvre et je quitte l'appareil. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis en Chine. Mais ça me fait souvenir du fait que dans les temps bibliques, il y avait beaucoup plus d'honneur pour les personnes âgées, n'est-ce pas? Un père ne s'adresse pas à son fils, mon Seigneur. Si donc David, qui selon Jésus a écrit le psaume 110, a parlé d'un Seigneur, le Seigneur, l'Éternel lui-même, a parlé à mon Seigneur, a dit à mon Seigneur, ça doit être quelqu'un plus grand que David. Comment est-ce que ça peut être son fils? Mais toute la Bible enseigne quand même que le Messie est le fils de David, n'est-ce pas? Maintenant, examinons encore de près psaume 110. De David, psaume. Dans les manuscrits en hébreu, il n'y a pas une autre couleur d'encre pour de David, psaume, ou une autre manière d'imprimer les lettres. C'est seulement la première ligne du psaume. Ça fait partie de ce qu'on appelle verset 1, malgré le fait qu'au début, il n'y avait pas de verset marqué. Il n'y a pas de manuscrit sans ces mots, malgré le fait que la grande majorité des érudits aujourd'hui, les érudits quotidiens, disent que c'était quelque chose ajouté plus tard. Ça ne peut pas être par David. Mais Jésus croyait que c'était par David. Et même, son argumentation dans Matthieu chapitre 22 se dépend de cette présupposition. Parce que si ce passage avait été écrit par quelqu'un dans le cours, par un fils de Corée, comme nous avons vu ce matin. Donc, à ce point, si le fils de Corée s'adresse au roi et il dit, « Oracle de l'Éternel à mon Seigneur, et le Seigneur est le roi », il n'y a pas de difficulté. Mais dans ce cas, l'argumentation de Jésus dans Matthieu chapitre 22 se trompe. La question que Jésus pose arrive seulement si c'est David lui-même qui écrit le psaume. De David, psaume, oracle de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Si David est le roi, qui est son Seigneur? Et c'est pour cette raison, en fin de compte, que plusieurs Juifs, et certes les chrétiens, en ont tiré la conclusion que David a en vue le Messie, et ils comprenaient que malgré le fait que ce Messie devait être sa descendance, il serait plus grand que lui. Comment est-ce qu'ils pourraient comprendre tout cela à ce point? Mais il y a quelques possibilités. Premièrement, il faut se rendre compte du fait que dans l'Ancien Testament, dans la majorité des cas, les prophètes, les écrivains, les scribes comprenaient ce qu'ils écrivaient. Et en réalité, pour la majorité des psaumes d'expérience personnelle, des psaumes de joie ou des psaumes de doute, ce n'est pas comme si ces psaumistes n'étaient que des scribes, hein? Et donc, David prend la plume à main, l'Éternel est mon berger. Après tout, il donne son expérience. L'Éternel, pour lui, est son berger. Il parle lui-même, malgré le fait que c'est l'Éternel qui parle par lui. Mais David comprend ce qu'il veut dire. Mais ici et là, par exemple, chez Daniel, des fois, Daniel reçoit une révélation, c'est-à-dire un oracle, que Daniel lui-même ne comprend pas. Et il veut le comprendre. Donc, après avoir écrit l'oracle que l'Éternel lui avait déjà donné, il pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un assez bon secrétaire à Trinity. et je lui donne beaucoup de dictées. Et souvent, ce sont des termes techniques, des termes en grec ou en hébreu, ou une discussion théologique, et franchement, elle ne me comprend pas. Elle est assez bonne avec un dictionnaire, mais il y a des fois des phrases que franchement, elle peut écrire sur l'ordinateur qu'elle ne comprend pas. Et des fois, elle me pose la question, qu'est-ce que dire par cela? Pareil comme Daniel. Dieu lui avait donné un oracle. Il n'a pas compris. Et Dieu lui dit, ce n'est pas de tes affaires. C'est pour une autre génération. Je ne te donne pas la réponse. Donc, c'est possible des fois que les écrivains de l'Ancien Testament reçoivent des oracles qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. C'est au moins possible que ce psaume en est un. C'est-à-dire que David reçoit un oracle de l'Éternel, c'est ça que nous lisons, n'est-ce pas? Oracle de l'Éternel. Et que lui-même, il ne comprend pas tous les détails. C'est possible. C'est possible. Et pour longtemps, j'ai pensé que probablement c'était le cas ici. Mais j'ai changé mon avis. Vous devriez vous mettre à la place de David dans votre esprit. Vous êtes devenu le roi. Le capital, c'est encore à Hébron. Après 7 ans, pas tout simplement les 2 tribus au sud, Juda et Benjamin, mais maintenant les 12 tribus et le capital, c'est Jérusalem, pour la première fois. Jérusalem n'était pas le capital de Saül. Pour la première fois, Jérusalem est le capital. Et pour la première fois, comme nous avons vu ce matin, selon 2 Samuel chapitre 7, pour la première fois, le centre du tabernacle et le centre du roi se trouvent à la même place, au même endroit, le capital. Sans doute, David lisait ce qui avait déjà été écrit de l'Ancien Testament. Les livres de Moïse, par exemple. Donc, sans doute, David connaissait déjà l'histoire de Melchizédek. Melchizédek, le roi prêtre. À cette ville, Salem, probablement l'ancienne ville de Jérusalem, comme nous allons voir tantôt. Maintenant, vous êtes devenu le roi à Jérusalem et vous connaissez votre Bible, vous connaissez l'histoire de Melchizédek. Vous n'avez pas le droit d'être prêtre. Vous êtes successeur à Saül qui voulait offrir les sacrifices d'un prêtre et ça lui a détruit. Mais le rôle du souverain sacrificateur est réservé pour le tribu de Lévi, n'est-ce pas? Et le rôle de roi est restreint. C'est seulement pour la personne dans la ligne de David du tribu de Juda. Donc, le roi ne peut pas être prêtre et le prêtre ne peut pas être roi. Mais le premier roi de cette ville, mentionné dans les Écritures, était roi prêtre. Est-ce que David connaissait vraiment, savait déjà qu'un jour, sa descendance, le roi bien promis dans 2 Samuel 7, le roi établi par le décret de l'Éternel, psaume 2, comme nous avons vu ce matin, deviendrait quand même prêtre, comme l'ancien prêtre, Melchizédek? Il ne pourrait jamais être prêtre selon l'ordre de Lévi. Mais pourquoi pas un jour un prêtre selon l'ordre de Melchizédek? Qu'est-ce que Melchizédek fait dans le livre de Genèse? Nous y reviendrons. Et donc, c'est possible, même si c'est Dieu lui-même, l'Éternel, qui l'a inspiré d'écrire ces mots. Oracle numéro 1, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oracle numéro 2, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Verset 4. Deux oracles dans ce psaume. C'est possible que David avait au moins une portion de ce que ça signifie. Une compréhension qu'un jour, sa descendance serait beaucoup plus grand que lui. Malgré le fait que c'est lui qui était le grand-père, son fils serait plus grand que lui, son seigneur, à la fois roi et prêtre. Parce que déjà, il y avait un exemple à Jérusalem avec ces deux titres. Certes, Jésus lui-même, quand il pose la question dans Matthieu chapitre 42, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appela-t-il Seigneur lorsqu'il dit, ensuite la citation, « Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ?» Par cette question, Jésus ne voulait pas nier qu'il était le fils. Il voulait tout simplement signer que penser qu'il était le fils et pas plus n'est pas assez. Ça ne suffit pas. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, il y a quelques indices qui indiquent que ce roi qui est le fils de David doit être plus grand que David. Et à un certain niveau, même David lui-même comprenait cela. Et nous avons vu aussi déjà dans la citation d'Ésaïe chapitre 9 que le roi Davidique, le roi, le fils qui nous a été donné, il règne sur le trône de son père David, mais à la fois, on lui appelle Dieu Tout-Puissant, conseiller. Père éternel. Un roi davidique encore plus grand que David lui-même. Donc, dans Hébreux chapitre 5, dans ce cas, verset 6, quand psaume 110 est cité, la citation est beaucoup plus claire, beaucoup plus facile que la citation de psaume 2 que nous avons examinée ce matin de bonne heure. C'est-à-dire, c'est une citation qui touche la vie du roi Davidique, mais dans ce psaume, le deuxième oracle insiste que ce prêtre, selon le décret de l'Éternel, doit être, ce roi, selon le décret de l'Éternel, doit être aussi prêtre. Il n'a pas choisi d'être le prêtre. C'était donné par Dieu. Psaume 110, la deuxième fois que ce psaume est cité dans le livre. Question avant d'aller à Hébreux chapitre 7. Question, remarque? Eh bien, commençons maintenant, pas avec Hébreux chapitre 7, mais avec Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, le premier chapitre où se trouve cet homme Melchisédek. Bataille entre Abraham et les petits rois qui sont liés avec lui, et les rois liés avec Kedorlaomer, qui avait pris en captivité les citoyens de Sodome et de Gomorre, s'y inclut le neveu d'Abraham lui-même. Et il faut comprendre que quand le texte parle de rois, ça veut dire à peu près le maire d'un petit village. Ce n'est pas un roi comme Nebuchadnezzar, par exemple, ou le roi d'un empire, un César, peut-être. C'est seulement un maire d'un petit village de, quoi, 3000 personnes, 2000 personnes. Donc, 4 ou 5 rois, ça veut dire, quoi, une armée de 500 personnes, 800 personnes. Et Abraham, il prend seulement 318 personnes. Donc, ce n'est pas une guerre avec, tanks. Comment on dit tanks? Les quoi? Les chars, oui. peut-être 1000 chars chaque côté en Europe dans la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas comme cela. Hein? C'est toute une petite bataille en comparaison avec cela. Mais quand même, pour ceux qui sont en bataille, pour ceux qui souffrent, c'est encore un défi, sans doute. Il les poursuit jusqu'au nord du pays, jusqu'à Dan, on dit, verset 14. Donc, ça leur prendrait au moins 3 ou 4 jours pour aller si loin du sud. Et ensuite, nous lisons verset 17. « Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. » Maintenant, le roi de Sodome n'est pas généreux. Ça, c'est tout simplement la coutume du temps. C'est-à-dire, Abraham a le droit de prendre les richesses de Sodome. Et il remet tout simplement les citoyens dans les mains du roi, du maire de Sodome, puis ça finit là. Mais Abraham dit, il répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi à Ner, Eshcol et Mamré, c'est-à-dire d'autres petits rois. Eux, ils prendront leur part. » Maintenant, examinez de près le texte. Si vous lisez verset 17 et vous sautez par-dessus verset 18, 19 et 20, 17 est assez bien lié à 21. C'est-à-dire, on peut ôter du texte, versets 18, 19 et 20, qui parle de Melchisédek, il y a une bonne suite, n'est-ce pas? Verset 17 introduit Sodome. Verset 21 nous donne ce que Sodome dit. Verset 22, ce qu'Abraham dit en réponse. Pourquoi donc sont les versets 18, 19 et 20 introduits? Qu'est-ce qu'ils ajoutent? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et aussitôt qu'on élève la question, il y a des critiques qui voient ici une source. Une source ajoutée plus tard par un scribe, un éditeur qui ne savait pas son affaire, un rédacteur qui ne savait pas ce qu'il faisait. Mais j'ai toujours des misères avec une explication qui exige quelqu'un qui est un peu fou. C'est mieux de poser la question tout simplement, qu'est-ce que Melchisédek ajoute? Mais dans un sens, Il est le contraire de Sodome. Il y a une expression technique. The foil of Sodom? The literary foil? Comment est-ce qu'on dit ça en français? L'opposé? L'opposé littéraire? Donc, on voit plus clairement ce que fait Sodome parce qu'on voit ce que fait l'opposé, en effet. Hein? C'est une manière de présenter une histoire. Si on voit des opposés, on voit plus clairement ce que chaque côté fait. Oui? Sans doute il y a un bon mot pour ça en français, mais vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Et vous avez beaucoup de patience et de gentillesse, et donc vous comprenez tout ce que je dis quand même. Dans ce sens, Melchizédek sert d'une personne opposée à Sodome. Hein? Abraham rejette ce que Sodome offre, mais il reconnaît en Sodome un monothéiste. En Melchizédek, est-ce que j'ai dit Sodome? Il reconnaît en Melchizédek un monothéiste. Il voit qu'il est le roi. Melchizédek veut dire en hébreu roi de justice. Tzadak veut dire justice. La racine Melch veut dire roi. Il est le roi de justice. Et il était, en réalité, roi de Salem. S-L-M, d'où vient notre mot shalom, c'est-à-dire la paix, mais ce n'est pas tout simplement la paix psychologique, mais c'est d'être bien avec Dieu et tout le monde et l'univers, parce que c'est la paix de Dieu, en effet. Il est le roi de Salem, ça c'est le nom de son village. Et probablement, nous ne pouvons pas être certains, mais probablement c'est l'ancien Jérusalem. Donc, son nom veut dire roi de justice, son titre c'est roi de Salem, et à la fois, il est sacrificateur du Dieu très haut, El Elyon en hébreu. C'est-à-dire, il n'utilise pas le nom Yahvé, le nom de l'Alliance, mais quand même, il croit dans Dieu El Elyon, le Dieu Tout-Puissant, le Souverain. Maintenant, la question à poser, c'est celle-ci. Est-ce que Melchizédek, ici, est une apparition pré-incarnée de Jésus-Christ? Ou non? Probablement, la majorité d'interprètes à travers l'histoire de l'Église ont décidé que c'est une apparence, en réalité, de Jésus-Christ. Mais j'en doute fort. J'en doute fort. Que dit le texte? Nous allons voir dans Hébreux chapitre 7 qu'il y a des raisons pour rejeter cette suggestion. Pourquoi penser qu'Abraham était la seule personne dans l'Ancien Monde qui croyait dans un seul Dieu? Il n'y a pas de texte qui insiste sur cela? Après tout, chapitre 6 à chapitre 9 de Genèse, le déluge, ensuite table de nations, ensuite, chapitre 11, Babel. Chapitre 12, l'appel d'Abraham. Et maintenant déjà chapitre 14. Pourquoi croire qu'il n'y avait aucune autre personne dans l'Ancien Monde qui croyait dans un seul Dieu? Peut-être Abraham trouvait en lui un esprit commun, un esprit qui croyait dans un seul Dieu. Il y a des raisons pour en tirer cette conclusion dans Hébreux chapitre 7, comme nous allons dire. La chose qui est véritablement remarquable, quand même, en ce qui concerne Melchizédek, c'est ceci. À travers le livre de Genèse, chaque personne importante a une généalogie. On sait d'où ils viennent, on sait quand ils meurent. Donc, chapitre 5, chapitre 10, quelqu'un a vécu tel et tel nombre d'années, il a été le père de ceci, cela, ensuite il a vécu un autre nombre d'années, ensuite il est mort. Et son fils, lui, il est né, puis ensuite il a vécu un tel et tel nombre d'années, ensuite des enfants, ensuite il a vécu encore un nombre d'années, ensuite il est mort. Et chaque personne, avec une importance quelconque, a une généalogie assez détaillée. On sait qui sont les parents d'Abraham. On sait qui sont les parents de Joseph. Mais Melchizédek, plus grand qu'Abraham, après tout, c'est lui qui bénit Abraham. Pas de mention de parenté. Pas de mention de sa mort. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas comment il meurt. Nous savons tout simplement qu'il est roi de Salem, que son nom signifie roi de justice, qu'il a béni Abraham et qu'Abraham lui-même reconnaissait qu'il était un roi prêtre avec le même Dieu, El Elyon, Dieu très haut. Apparemment, donc, ce petit roi, roi de Jérusalem, il est sorti avec du pain et du vin. Il voulait donner un coup de main à Abraham dans le retour, après avoir vaincu Kedorlaomer et ses copains. Et donc, il bénit Abraham, non pas tout simplement avec les bénédictions de pain et de vin, mais avec une bénédiction orale. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham reconnaît ce qu'il est, parce que Abraham rejette Sodome. Ça, c'est le contraste. La personne opposée, Abraham rejette, mais il accepte l'autorité, la confession, la bénédiction et l'aide de Melchizédek. Il ne veut pas être aidé par Sodome. Il ne veut pas recevoir de quoi de ses mains, mais il reçoit le pain et le vin de la main de Melchizédek. Et ensuite, Abraham lui donna la dîme de tout. C'est tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament en ce qui concerne Melchizédek. Ce que nous trouvons ici, ce que nous trouvons dans Psaume 110, il n'y a pas d'autre chose. Question jusqu'à ce point? Il n'y a pas de généalogie pour Sodome ou pour Kedorlaomer, pour les autres rois. Donc, pourquoi attendre une généalogie pour Melchizédek? C'est la question. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres personnes dans le livre de Genèse qui n'ont pas de généalogie. Je dis tout simplement, il n'y a pas de personne centrale. Sodome n'est pas important. Il est détruit, en effet, par l'attaque de Kedorlaomer. Il est méchant et sa ville va être brûlée. Kedorlaomer n'est pas important. Il est important dans le sens qu'il fallait avoir quelqu'un pour Abraham pour détruire. Hein? Mais après tout, il n'est pas important dans l'histoire du salut. Mais Abraham, Joseph, Jacob. Mais quand même dans cette histoire, Melchizédek est plus important qu'Abraham. Il est plus important qu'Abraham et on l'utilise dans Psaume 110, on l'utilise dans l'Épître aux Hébreux, on n'utilise pas comme bon exemple Kedorlaomer, après tout. Mais quand même, Melchizédek est tellement important qu'il donne la bénédiction à Abraham et il reçoit de lui la dîme, et quand même, on ne sait presque rien de lui. C'est remarquable. Et même, on aurait pu raconter l'histoire sans lui. Sans verset 18, 19, 20, et l'histoire se tiendrait debout quand même, n'est-ce pas? C'est remarquable. Plus important, mais on dirait presque ajouté. Quelle conclusion doit-on tirer de ces faits? Et ensuite, nous revenons à Hébreux chapitre 7 pour voir comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux comprend ces versets. Hébreux chapitre 7. C'est déjà 21h moins 4. Et je ne veux pas commencer ce passage avec seulement 4 minutes. Donc, vous allez vous dormir de meilleure heure ce soir que vous avez comptez, que vous avez atteint.